Je passe la parole à Roland Gory.
Eh bien, merci. Bonjour à tous. Merci à Catherine Dolto, Alain Vanier, Catherine Vanier, Sylviane Giambino et tous les organisateurs de m'avoir permis donc de parler aujourd'hui lors de ces journées Dolto. Je vais commencer par une citation un peu rude. Et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Il ne faut pas dire qu'une heure de travail d'un homme vaut une heure de notre homme, mais plutôt qu'un homme d'une heure vaut un autre homme d'une heure. Le temps est tout, l'homme n'est plus rien, il est tout au plus la carcasse du temps. C'est de cette culture-là dont je vais aussi parler. À distance du naturalisme ambiant de la nouvelle santé mentale, je dirais que les symptômes au nom desquels les patients viennent consulter portent la marque d'une époque et d'une culture donnée. Les dispositifs, au sens fort du terme, de capture, de modelage du vivant, les dispositifs qui fabriquent les diagnostics, les objets, les concepts et les pratiques psychiatriques ont une histoire. En ce sens, je dirais, Michel Foucault, que la psychopathologie constitue un fait de civilisation. Si chaque culture a la pathologie mentale qu'elle mérite et la psychopathologie qui lui convient, qu'en est-il aujourd'hui de la nôtre ? Qu'en est-il aujourd'hui de la note qui ne cesse d'insister sur ces fameux troubles du comportement et leur détermination soi-disant neurogénétique ? Que révèlent aujourd'hui ces psychopathologies des valeurs de notre culture, des valeurs d'une culture dont elles émergent et qu'elles contribuent à recoder en retour ? Nous assistons aujourd'hui à un changement de paradigme. Les nouvelles pratiques psychologiques et médicales ne s'embarrassent plus guère des concepts de réalité psychique, d'angoisse, de culpabilité ou de désir. Ça fait has-been, paraît-il. Seules s'imposent les techniques de rentabilité comportementale, les stratégies de management des conduites qui vont éduquer l'individu à mieux se gouverner lui-même, à gérer son capital humain au mieux de ses intérêts. Et, paraît-il, ce gouvernement des conduites s'inscrirait dans le champ naturel du marché selon une logique du profit qui fait de tout individu un entrepreneur de lui-même au sens de Foucault. Donc les dispositifs dits de santé mentale n'ont plus appréhendé l'individu dans sa structure psychique ou dans son écologie sociale, mais devraient assurer la traçabilité des comportements individuels, le quadrillage et le dépistage des populations à risque, comme le modelage de leur rationalité par une espèce de gouvernement numérique et par une sculpture à l'aide de psychotropes. C'est ainsi qu'on en vient à donner à chaque enfant aujourd'hui une maman molécule et un papa TCC. Simultanément, les symptômes dans lesquels les patients viennent consulter ou sont repérés changent ou paraissent changer d'enveloppe formelle, de forme, et s'exprimeraient toujours davantage dans des troubles du comportement, des pathologies de l'agir et des instrumentalisations de soi et d'autrui. Ces symptômes, vous le savez, sont rassemblés par la psychiatrie d'aujourd'hui dans la grande famille des 10, ce que j'appelle la traque des 10, l'empire des 10. Les dyslexiques, les dysorthographiques, les dyscalculiques, les dysphoriques, les dysthymiques, les dysfonctionnants érectiles, j'en passe, et des meilleurs. La psychiatrie s'occupait du diagnostic et du soin. La santé mentale se préoccupe des dysfonctionnants dont on peut étendre à l'infini le champ. Ce 10 est un produit des dispositifs de fabrication du handicap qui efface les différences, homogénéise les souffrances et en même temps amplifie et traque les imperfections et les stigmates. Il n'y a plus de feignants ou d'idiots ou de cancres, écrivait une journaliste de la Provence, c'est un journal de chez moi, un quotidien, mais il n'y a plus que des enfants de 10. 45 000, paraît-il, dans la seule région PACA, où, paraît-il, je cite un chef de service de pédopsychiatrie, les progrès de la neurologie permettent désormais de diagnostiquer très précisément ces handicaps, dont l'origine est parfois génétique, parfois liés à des accidents de naissance. Vous voyez, le désir à la trappe. Et si, je cite, on ne guérit pas de ces troubles, on apprend à les contourner. Un enfant 10 correctement pris en charge peut parfaitement poursuivre une scolarité normale et obtenir des diplômes universitaires. Fin de citation. Je ne vois pas en quoi c'est rassurant d'ailleurs. C'est donc toute une façon de parler le monde et de le dire qui se trouve aujourd'hui mise en place. Le 10, en tant que vecteur d'une nouvelle langue, constitue finalement une habile invention linguistique permettant de répondre aux besoins sociaux et aux nécessités anthropologiques du néolibéralisme. Qu'est-ce qu'un 10 ? 10 vient du préfixe grec « dys » pour exprimer un sentiment de difficulté, de manque ou de peine, dans le fonctionnement tout simplement de l'existence. Alain Rey remarque que ce préfixe se révèle un élément de composition très ancien et très productif, puisque durant toute l'histoire du grec ancien, ce préfixe a servi à former plus de 1000 mots dans tous les genres littéraires. Donc, vous voyez, on le voit bien, en comparaison de nos 395 troubles du comportement du DSM-4, ça fait un peu parent pauvre. Mais on ne désespère pas, parce que le marché est prometteur. Ajoutons à cette grande famille des 10, ces mini-délinquances que seraient les troubles oppositionnels de provocation, les troubles des conduites, les troubles envahissants du développement, les troubles de l'adaptation, le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, les addictions, les cyberdépendances, les dépressions de la réalité virtuelle, les suicides au jeu du foulard ou de la tomate. Alors, on constate que le peuple de la petite monnaie des anomaliques ne cesse de s'agrandir comme autant de menus illégalismes. Et aujourd'hui comme hier, le recodage médical de la psychiatrie, je dirais technique de la psychiatrie, opère par la jonction du juridique et de l'organique. C'est la question du trouble, c'est la question du danger, c'est la question du risque qui permet à nouveau à la psychiatrie aujourd'hui ce retour vers une pensée technique. On ne saurait comprendre les débats actuels autour de la prévention de la délinquance, par exemple, sans une perspective historique permettant de saisir le jumelage constant depuis le XIXe siècle du juridique et de l'organique. C'est ce jumelage qui permet l'ouverture quasi infinie du domaine d'ingérence du psychiatre et sa participation, à partir d'un modèle biologique, à la défense de l'ordre social. Aujourd'hui comme hier, le pouvoir demande à la psychiatrie, rebaptisée santé mentale, de dire comment le sujet ressemblait à son crime avant même de l'avoir commis. L'avenir appartient aux épigones de Lombroso dans cette nouvelle obsession sociale sécuritaire que constitue le souci de dépister le plus tôt possible les indices et les empreintes des anomalies à partir de techniques biométriques et à partir de l'exigence de gérer les potentiels de dangerosité des populations. Lombroso est d'ailleurs mentionné dès la page 2 du rapport de synthèse de l'expertise INSERM de 2005 sur le trouble des conduites chez l'enfant et l'adolescent, rapport d'expertise qui a soulevé une grande émotion dans le pays et initié le mouvement Pas de zéro de conduite dont je m'honore de faire partie. Il y a dans notre culture un point commun entre les formes des symptômes et les modèles psychiatriques qui tentent d'en rendre compte. Ce point commun, c'est celui d'un désaveu de l'autre. C'est celui d'un désaveu de l'autre auquel le symptôme s'adresse et que d'une certaine façon il inclut. La place de l'autre dans la fabrication des symptômes et dans leur adresse, ça demeure ça le point aveugle tant des nouveaux diagnostics psychiatriques que des modèles heuristiques qui entendent l'intelligibilité et le traitement. C'est ce désaveu qui me semble révéler tant la substance d'une civilisation que les formes d'expression de ces pathologies. Alors, rien d'étonnant, si mon hypothèse est juste, bien sûr, dès lors que la psychanalyse et une certaine philosophie, il faut le dire, puissent devenir des objets de haine de cette civilisation technique sans autre. Haine du transfert, haine de la pensée, haine du langage, une telle civilisation inscrit dans la culture des techniques d'assujettissement désubjectivantes. Ce changement de paradigme en psychiatrie, qui réalise aujourd'hui un véritable gommage anthropologique de la souffrance, semble moins s'imposer comme un événement scientifique que se déduire d'une idéologie, de la civilisation néolibérale. Si vous voulez, ce sera ma manière à moi de rendre hommage à l'œuvre de Françoise Dolto que d'insister sur ce point. Dolto, elle, ne cessait de dire et de montrer que tout sujet, je la cite, s'inscrit dans un corps social. Alors, je dirais que si notre civilisation a besoin aujourd'hui d'une psychopathologie objective pour participer à la normalisation sociale des comportements, il convient d'entendre le terme d'objectif, non pas dans un sens scientifique, ça n'a vraiment rien de scientifique, mais dans un sens idéologique, c'est-à-dire de description des choses et des humains comme des purs objets, comme des marchandises. Avec Adorno, je dirais, l'objectivité dans les relations entre les hommes, qui fait place nette de toute enjolivure idéologique, est déjà devenue elle-même une idéologie qui nous invite à traiter les hommes comme des choses. Je voudrais maintenant intervenir sur la question du temps, de l'argent et de la mémoire. Voyons maintenant pourquoi, dans la civilisation libérale qui fait du sujet un homo economicus et de la psychologie et de la psychiatrie une sorte d'économie politique capable d'analyser toute conduite en termes de capital, de stratégie, pourquoi est-ce que le temps est un élément si essentiel? Pourquoi notre rapport au temps est-il révélateur du style anthropologique de notre culture, tout autant finalement que l'opérateur de ces pathologies? Pourquoi le rapport au temps se révèle-t-il comme un rapport à l'être, un rapport ontologique, dévoilant la manière d'accueillir dans la culture la vulnérabilité, la perte, la mort? Comment ce rapport au temps façonne-t-il les manières dont les sujets dans une culture entrent en relation avec eux-mêmes, avec les autres, et assument leur parentalité? Nous n'avons plus le temps. La France qui se lève tôt n'a pas le temps d'analyser ses rêves. Le temps, c'est de l'argent, et les parents travaillent dur pour le gagner, et dans ce capital humain qu'est l'individu, il faut savoir l'investir. Le temps est une pièce essentielle de l'économie capitaliste, depuis ses origines d'ailleurs, comme condition de la production industrielle, autant que comme opérateur de gouvernement des conduites. Marx avait analysé cet impératif capitaliste qui dictait de détruire l'espace par le temps. Détruire l'espace par le temps pour accroître toujours davantage l'étendue des marchés. Cet impératif de gagner du temps pour produire de nouveaux espaces permettant la circulation des capitaux et des hommes se révèle donc dans une cohérence structurale constante et interne à notre civilisation depuis au moins le XIXe siècle. L'expansion des marchés dont le capitalisme a besoin n'est réalisable qu'à la condition de réduire sans cesse le temps du mouvement qui transporte les hommes et les marchandises d'un lieu géographique à un autre. La mondialisation, c'est qu'un effet de surface de cette reconfiguration de l'espace par le temps. Jusque-là, si vous voulez, rien de nouveau sous le soleil de la géopolitique, de la domination sociale et des matrices de fabrication des sujets éthiques. Ce qui change, les choses changent avec ce que certains sociologues ont appelé la culture du nouveau capitalisme. Richard Sennett a posé les fondements de cette culture du nouveau capitalisme. Les fondements moraux de nos sociétés et les problèmes éthiques auxquels sont confrontés les individus dans notre modernité ont changé. Les nouvelles formes de civilisation conduisent l'individu à relever trois défis. Premier, comment gérer les relations à court terme et façonner de manière stable en même temps sa propre vie avec le sentiment durable de son existence dans une culture. Alors même qu'on prône la flexibilité des tâches, la flexibilité des emplois, la flexibilité des lieux et la flexibilité des relations. Deuxièmement, comment acquérir de nouvelles compétences au moment où justement on fait l'éloge du potentiel qui est la destruction même du métier. C'est la destruction de l'histoire. Comment, troisièmement, tisser son histoire et son passé dans une civilisation de la contingence, dans une civilisation de l'immanence. Si vous voulez, ces trois défis me semblent favoriser dans notre civilisation postmoderne des relations liquides, flexibles, protéiformes, qui rendent toujours plus illisible au sujet la réalité sociale au sein de laquelle il évolue et par laquelle il acquiert un sentiment d'existence. Nous sommes entrés dans une culture qui s'éloigne toujours davantage du capitalisme social et industriel pour installer un capitalisme financier où les investisseurs dominent les managers, où les profits à court terme prévalent sur les productions industrielles. Et les institutions de soins, les institutions d'éducation, les institutions de culture, sont aussi métamorphosées à cette image et participent aussi à la fabrication de nouveaux idéaux. Ce faisant, ces institutions, en se métamorphosant ainsi, ont toujours davantage accru le divorce entre pouvoir et autorité, entre servitude et reconnaissance institutionnelle, entre loyauté individuelle et cynisme des profits, entre prestige moral du métier et exigence de flexibilité et de réactivité des potentiels humains. L'économie du marché est hantée, nous dit Sennett, par le spectre de l'inutilité. Le régime d'existence de cette culture s'avère dans tous les espaces celui de la flexibilité, de la contingence qui produit angoisse, harcèlement et déficit moraux. Civilisation de la servitude davantage que culture de la loyauté, civilisation de la capacité mobile de résoudre des problèmes davantage que culture des mérites du métier, civilisation de la marque plutôt que culture de l'histoire, c'est un point important. Cette civilisation, elle transforme le citoyen en consommateur-spectateur et l'homme politique en produit de marketing, il faut bien le dire. Et les parents? Eh bien, les parents, ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps et ils communiquent aux enfants, justement, ces nouvelles normes anthropologiques. Françoise Dolto disait que les enfants étaient des éponges vivantes. Ces éponges vivantes, ce qu'elles absorbent à l'heure actuelle, ce sont ces nouvelles modes et ces nouvelles normes anthropologiques. Et ces nouvelles normes anthropologiques, elles produisent des pathologies que j'appellerais des pathologies du nihilisme, et dont on fait porter toute la charge neurogénétique aux enfants. Je voudrais dire un mot sur information et vérité. Le concept cardinal de notre culture, c'est celui de l'information. Ce qui s'oppose à l'information, c'est le hasard, le désordre et l'entropie. Or, nous ne saurions comprendre des valeurs de transparence, par exemple, très à la mode, de traçabilité sécuritaire, de dépistage préventif, d'informations concernant nos équipements génétiques et neurobiologiques. Nous ne saurions comprendre le souci de cette évaluation généralisée, prétendant garantir un ordre social, un ordre psychologique, un ordre économique, qu'à la condition de rappeler précisément que le hasard, le désordre et l'entropie hantent, comme des spectres, tous les dispositifs de gouvernement des conduites, des populations et des individus que l'on met en place dans les secteurs sociaux, culturels et soignants. Nous ne pouvons, dans cette culture qui fabrique un homme numérique, concevoir notre liberté sans réduire toujours davantage le hasard, le désordre et l'entropie. C'est ainsi que notre civilisation conçoit la liberté dans un fichage extensif, moins d'ailleurs des individus, que des informations dont ils seraient les supports et les porteurs, donc, en tant que moyen de les faire circuler. Dans cet univers numérique, les machines sont de bons professeurs et nos voitures comme nos ordinateurs ont de la personnalité. C'est un homme nouveau là qui est en train de naître de cette révolution numérique, sécurisant notre environnement, quitte à le rendre, à proprement parler, humainement invivable. Françoise Dolto n'a eu cesse de nous dire et de nous montrer que l'enfant était un être de langage. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau malaise de la civilisation où les dispositifs culturels nous disent que l'homme est un être d'information. Ce n'est pas du tout la même chose, un être de langage et un être d'information. Ce n'est pas du tout la même chose, le parlêtre et ce que j'appellerais l'internêtre. C'est dans deux régions ontologiques différentes. Cette civilisation qui fait du sujet humain un point d'interconnexion des réseaux de normalisation de jouissance, un potentiel liquide, flexible, sans cesse en mouvement et contraint à la réactivité immédiate, est-ce qu'elle ne fabrique pas justement ces pathologies du nihilisme dont nous faisons ensuite porter toute la charge aux enfants au nom de leur patrimoine neurogénétique? Et ces symptômes dont on fait aujourd'hui porter la charge aux enfants ne relèvent-ils pas davantage et ne révèlent-ils pas davantage les désarrois des parents, face à ces nouveaux impératifs éthiques de la civilisation? Flexibilité, immédiateté, mobilité et réactivité. Et après, on dit que ce sont les enfants qui ont un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Cette mutation anthropologique de notre civilisation fabrique un style. Fabrique un style dans le rapport des sujets au temps, c'est-à-dire à la perte, à la mort, au manque et à l'histoire des générations, affectant la manière dont les individus assument, dans une culture donnée, leur parentalité. C'est un des apports, et non des moindres, de psychanalystes comme Dolto, Winnicott et Ferenczi, que d'affirmer toujours davantage que l'acte thérapeutique consiste d'abord et avant tout à donner du temps pour comprendre et à donner de l'autre pour le corporifier. C'est-à-dire du temps pour incuber les événements de vie et faire qu'ils ne traversent pas fugitivement la conscience, mais qu'ils puissent s'inscrire dans des mémoires singulières et collectives. Bref, c'est la manière de devenir humain et c'est la manière de prendre place dans un monde habitable. L'événement de vie, ça rejoint peut-être une question de ce matin, l'événement de vie ne s'inscrit comme trace dans le psychisme qu'à la condition d'avoir été refoulé, incubé, mis en latence. Faute de quoi, Ferenczi nous l'avait appris, faute de quoi l'enfant est terrorisé, il est hors de lui, il est terrorisé dans la souffrance ou alors il est hyper adapté, dans une conformité instrumentale, blanche et sèche, conforme à son environnement. Le conformisme, l'homogénéité des comportements, ça relève d'une passion haineuse. Et je verrai volontiers dans la création des maisons vertes un refus de laisser hier l'école, comme aujourd'hui la santé de la culture, se transformer en espace de réification, de chosification de l'humain. Pourtant, nous dira-t-on, jamais autant qu'aujourd'hui, notre culture n'a protégé l'enfant. Jamais on ne l'a autant suivi dans les replis de son intimité, en prévenant par exemple son obésité ou en soupçonnant ses colères. De même, jamais autant qu'aujourd'hui, une culture n'a promulgué de dettes de mémoire et reconnu des victimes de l'histoire. Eh bien, peut-être que paradoxalement, c'est ce que je vous proposerai, paradoxalement, dans les deux cas, jamais autant qu'aujourd'hui, on a conjuré l'infantile. Jamais autant qu'aujourd'hui, on a compromis le temps nécessaire à la mémoire. Dès lors qu'avec Freud, on peut définir la mémoire de l'inconscient comme une manière de se rappeler sans se souvenir. Alors il faut du temps. Il faut du temps d'incubation. Pour conclure, je relèverai le défi de ce paradoxe en m'appuyant justement sur Dolto. Au cours d'un entretien avec François Dolto, le 23 avril 1974, sur le thème « Enfance et société », l'historien Philippe Ariès lui pose la question suivante. Comment se fait-il que dans les sociétés pré-industrielles, inégales dans la vie comme devant la mort, dures avec l'enfant qu'elles pouvaient maltraiter, tuer ou vendre comme objet sexuel, comment se fait-il que dans ces sociétés, les problèmes que, selon la psychanalyse, l'enfant rencontre aujourd'hui dans son développement psychique, ses étapes, ne se posaient pas? Question d'Ariès à Dolto. Comment se fait-il, souligne l'historien des mentalités, que ce soit au moment même où, dans l'histoire de notre civilisation, l'enfant acquiert et consolide sans cesse son statut de sujet de droit, comment se fait-il que ce soit précisément à ce moment-là que la découverte freudienne lui fasse parcourir tout un cycle, on peut dire d'épreuves initiatiques, libidinales et agressives, pour advenir comme sujet de désir? Je crois que c'est une question très forte. Comment se fait-il que ce soit au moment où s'installe l'enfant en tant que sujet de droit, n'est-ce pas, que se puisse se poser la question, si vous voulez, de son trajet pour advenir comme sujet de désir? Françoise Dolto répond, elle répond pour autant que la psychanalyse soit apparue à une époque donnée, la psychanalyse, contrairement à ce que veut lui faire dire un petit peu Philippe Ariès, qui dit finalement la psychanalyse naît avec une société industrielle, elle est produite d'une culture industrielle, Françoise Dolto répond que, pour autant qu'elle soit apparue à une époque donnée, la psychanalyse dévoile des vérités universelles et non contingentes. Première réponse. Quant aux enfants en difficulté d'aujourd'hui, dit-elle, ces enfants sont des enfants très sensibles. Et autrefois, ils mouraient. Donc, en somme, je m'appuie juste sur ce petit passage, les enfants en difficulté, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, sont des survivants. Sont des rescapés, et des rescapés de quoi? De la civilisation. Alors, si vous voulez bien, pour terminer, juste relever cela, c'est rescapés de la civilisation, moi je l'entends rescapés dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que, à la fois, ils survivent grâce à la civilisation, n'est-ce pas, mais aussi, ils lui échappent en tant qu'inadaptés. Ils sont en quelque sorte les témoins, les martyrs, les vestiges d'une époque révolue de notre histoire qui entre en conflit avec notre nouvelle manière d'écrire le présent. Apprendre maintenant les choses, non plus dans un sens historique, mais dans un sens ontologique, ne peut-on pas, c'est mon hypothèse, ne peut-on pas entendre aujourd'hui les difficultés de nos patients et de leurs familles, moins comme une clinique des nouveaux sujets tels que Jean-Pierre Lebrun ou Charles Melman l'évoquent, mais plutôt comme le symptôme d'une civilisation au sein de laquelle coexistent et s'affrontent deux cultures. Deux cultures, une culture de l'instant et une culture de l'histoire. Et si cette hypothèse est exacte, les nouveaux diagnostics de la psychiatrie aujourd'hui, n'est-ce pas, constitueraient moins des événements scientifiques, ce que je ne pense pas, que l'écriture de cet embarras de la civilisation. C'est-à-dire qu'ils diraient moins la vérité sur ce dont souffrent les patients que sur la civilisation dans laquelle les sujets peuvent inscrire leurs souffrances psychiques. Voilà la thèse que je vous soumets et je vous remercie de votre attention.